VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Nous sommes le vendredi 13 mars 2015 et il est 13h en temps universel. Vendredi 13, ben, faut bien faire gaffe, hein. Mais ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Au moins 6 personnes ont été blessées ce vendredi, d'après les services de secours, dans l'attaque d'un convoi dans le nord-est du Kenya, près de la frontière somalienne. Une opération revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Jean Gébion.
Le convoi a été attaqué près de Mandera et transportait le gouverneur du comté, Ali Roba, qui est sain et sauf. 5 blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche et un patient dans un état critique dans un autre établissement, selon l'AFP, qui cite le centre kenyan de gestion des catastrophes. La Croix-Rouge kenyane, dont les ambulances ont transporté les blessés, a confirmé ce bilan. Le porte-parole militaire de Shebab, Abdulaziz Abou Moussab, contacté par l'AFP, a indiqué qu'une unité commando de Shebab a attaqué un convoi kenyan roulant de Mandera vers Nairobi et avait regagné ensuite sa base en Somalie. Il a par ailleurs affirmé que 2 véhicules avaient été détruits et que les assaillants s'étaient emparés d'armes et d'un véhicule. La localité de Mandera, dans le nord-est du Kenya, est située juste à la frontière avec la Somalie et l'Éthiopie. Elle est le théâtre d'attaques régulières des Shebab, attentats ou embuscades.
Cap maintenant sur le Mali, où les forces spéciales des services de renseignement ont abattu aujourd'hui à Bamako l'un des auteurs présumés de l'attentat du 7 mars qui a fait 5 morts dans la capitale. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès de ce qui est communément appelé sécurité d'État. L'homme n'a pas voulu se rendre, a déclaré le numéro 2 des forces spéciales. Information confirmée par un autre responsable de cette unité qui dit avoir participé à l'opération. En Mauritanie, 3 militants anti-esclavagistes mauritaniens ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Il y a des gens qui parlent d'autonomie large. Ils disent que on ne peut pas aller en dessous d'une autonomie large. Il y en a aussi qui reviennent toujours sur la question de la fédération et qu'ils pensent que l'État malien ne peut plus être en mesure de sous-traiter la sécurité de cette région-là et que pour arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme qui menace tout le monde, qui a créé la faillite économique et tout ça dans la région, ne saura être combattu que par un État de proximité, peut-être pourquoi pas un État fédéral qui est plus proche de la zone et qui pourra lutter afin que la gouvernance soit adaptée en termes d'administration, en termes de sécurité et pouvoir contrer la menace terroriste qui n'est pas qu'une menace qui s'introduit en termes sécuritaires mais aussi en termes de développement parce qu'aujourd'hui ici il y a des gens qui adhèrent à ce groupe djihadiste terroriste, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'il n'y a pas d'administration, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de services de proximité adaptés.
Vous l'avez compris, on écoutait Mohamed Assalé de la cellule de communication de la coordination des mouvements de la Zawad. Il nous parlait de la question de l'autonomie régionale. Pour revenir à la Mauritanie, 3 militants ont été libérés, je vous le disais hier, après avoir écopé d'une peine avec sursis. Nous retrouvons Claire Morin-Gibourg.
Les 3 militants, dont une femme, sont tous membres de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG anti-esclavagiste. Jugés depuis le 5 février par le tribunal correctionnel de Nouakchott, les 3 militants ont été condamnés jeudi à 1 an de prison avec sursis, puis libérés. C'est ce qu'a annoncé leur entourage à l'AFP. Ils avaient été arrêtés lors d'une manifestation en novembre 2014 après l'arrestation du président de l'IRA, Biram Ouldabeyd, et de plusieurs autres militants de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. 7 co-accusés jugés en même temps que les 3 condamnés ont été relaxés. Tous avaient été arrêtés à Rosso alors qu'ils menaient une campagne pour dénoncer l'esclavage. Outre le chef d'inculpation d'appartenance à une organisation non reconnue, d'après la défense, ils avaient été accusés de rassemblements non autorisés et violences contre la force publique.
Oui, il faut dire qu'officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'esclavagisme et en cours des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Mais d'après des ONG, certaines formes d'esclavage existeraient encore dans le pays. En Centrafrique, l'UFOR RCA, c'est la force européenne en République centrafricaine, dresse un bilan positif de ses opérations à 2 jours de son départ du pays le 15 mars. Le point avec Félix Yepassis-Zembrou.
Près d'une année après son déploiement en Centrafrique, la force européenne EUFOR RCA se dit satisfaite du travail accompli. Plusieurs réalisations civilo-militaires ont été énumérées. La sécurisation de l'aéroport Bangui-Poco et des 3e et 5e arrondissements, l'appui au déploiement des forces de la MINUSCA, l'installation d'une passerelle métallique en remplacement d'un pont affaissé depuis plusieurs années. Le général Philippe Pontiès, commandant la force EUFOR RCA.
Nous quittons Bangui, nous quittons une ville apaisée avec un processus politique en cours. Des camps de réfugiés qui sont en train de se vider, des déplacés aussi qui rentrent chez eux. J'ai le sentiment effectivement que le devoir est accompli. Il y avait encore quelques patrouilles autour du site du CATEX où la force est stationnée pour des raisons de protection et de sécurité. Et donc désormais les tout derniers contingents sont en train de préparer leur sac pour rejoindre l'Europe.
Malgré cette satisfaction, le commandement de l'EUFOR RCA note que des actions restent à mener pour la sécurisation de Bangui.
Et j'ajoute qu'une nouvelle force dénommée EUMAM, j'espère que je le prononce bien, est censée remplacer l'EUFOR d'ici à la fin du mois. Au Tchad, la police nationale et les organisations de la société civile en désaccord sur le bilan de la manifestation des élèves et étudiants lundi contre la décision rendant obligatoire le port du casque pour les motocyclistes. L'ONG Droits de l'Homme sans frontières, la coalition de la société civile tchadienne Trop c'est trop et le syndicat national des enseignants chercheurs du supérieur accusent la police d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants faisant des morts. Des allégations démenties par le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga. Nous l'écoutons.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et en fait, je vous propose maintenant d'écouter donc le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga.
Par un point de presse, le responsable des droits de l'homme sans frontières a donné un bilan erroné et a fait état d'arrestations arbitraires où le nombre de ces personnes interpellées est indéterminé. En tant que citoyen responsable, je tiens à vous apporter les précisions suivantes. Lors de la manifestation du lundi, qui s'est soldée malheureusement par la mort d'un étudiant fauché par un bus universitaire, je voudrais vous signifier qu'au moment où je vous parle, 53 personnes dont la plupart n'est ni élèves, ni étudiants se trouvent au parquet pour répondre de leurs actes. Quant aux élèves et étudiants innocents, ils ont été relâchés. Le policier étant un citoyen comme tout autre, quel intérêt a-t-il d'user, n'est-ce pas, son arme contre ses propres enfants, ses propres petits frères ou ses amis? Face aux agissements de ces personnes mal intentionnées et ces responsables des organisations qui se croient au permis, nous nous réservons le droit des actions en justice.
En République démocratique du Congo, Martin Kobler, chef de la mission onusienne à la MONUSCO, préconise un dialogue stratégique permanent et un pacte de confiance avec le gouvernement du pays pour relancer leurs relations bilatérales. Nous écoutons Martin Kobler.
Le point de départ, c'était la nomination des deux généraux et nous avons maintenant un dialogue avec le gouvernement pour régler le problème. Point de départ, c'était vraiment l'initiative du gouvernement. On avait une planification excellente des opérations contre les FDLR qui maintenant est vraiment bloquée. On était forcé de couper le soutien selon notre politique des droits de l'homme. Nous partageons les mêmes objectifs, de protéger les droits de l'homme. C'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif de la MINUSCA, je suis très très confiant. On va résoudre le problème ici. C'est très important de maintenant rétablir la confiance. Il faut avoir un pacte de confiance avec le gouvernement. Pas d'être ici avec les actions unilatérales de la part des FRDC. Et la MINUSCA est un peu bloquée et paralysée maintenant dans ses actions contre les FDLR. On veut le faire ensemble avec les FRDC parce que nous avons beaucoup à offrir qui peut soutenir les actions qui sont menées par les FRDC dans leur combat contre les FDLR.
Le chef de la MINUSCA, Martin Kobler, dans un extrait fourni par notre station partenaire Top FM à Kinshasa. En Irak, les forces gouvernementales maintiennent leur pression autour de Tikrit. Objectif, reprendre cette ville clé au groupe djihadiste État islamique qui vient d'accepter l'allégeance du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Plusieurs autres groupes djihadistes ont également fait allégeance à l'État islamique. Et voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité. Le prochain dans 50 minutes exactement. Et si je ne m'abuse, ce sera encore avec moi. Bon, bah écoutez, à tout à l'heure et faites gaffe, on est vendredi 13.